Le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes encore dans sa présence pour écouter ce qu'il a à nous dire. C'est toujours devant lui que nous devons nous placer. Comme Corneille et toute sa famille, quand l'apôtre Pierre est arrivé, Corneille a dit, nous sommes devant le Seigneur pour entendre tout ce que tu as à nous dire de sa part. Devant le Seigneur. C'est ainsi que nous devons toujours être devant lui, comme des serviteurs obéissant à leur maître. Alléluia. Nous poursuivons donc nos méditations sur le discernement spirituel dans ces temps de la fin. Et nous allons aborder un autre aspect ce matin de ce discernement, un aspect que l'apôtre Paul a dû mentionner dans l'épître aux Corinthiens. Et cet aspect est celui-ci, 2 Corinthiens, on peut lire déjà, 2 Corinthiens chapitre 11. Il y a des paroles étonnantes qui sortent de la bouche de Paul. Étonnante. 2 Corinthiens 11. Les quatre premiers versets. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé un seul époux. Pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre, qu'est-ce que vous avez dans vos Bibles ? Un autre Jésus. Un autre Jésus. Ça existe donc, un autre Jésus. Un autre Jésus. Y avez-vous pensé ? Ce sera le sujet de notre méditation de ce matin. Mais allons un peu plus loin. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile, que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Vous le supportez fort bien. On peut le supporter fort bien parce qu'on ne fait pas la différence entre le vrai Jésus et l'autre Jésus ou le faux Jésus qu'on peut nous prêcher. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a cette tentation, il y a ce piège. L'apôtre Paul, vous êtes d'accord avec moi, ne parle pas pour rien dire. Si quelqu'un vient et vous prêche un autre Jésus, vous l'acceptez. C'est-à-dire que ce Jésus-là ressemble au vrai, mais ce n'est pas le vrai, c'est un autre. Mais il ressemble, mais ce n'est pas le vrai. Et cependant, il ressemble, mais ce n'est pas le vrai. Alors, ne croyez-vous pas qu'on a besoin de savoir discerner entre le vrai Jésus et le faux Jésus, ou l'autre Jésus qu'on peut nous prêcher. Et surtout dans ces temps de la fin, nous devons avoir ce discernement-là, c'est capital. C'est capital. Et surtout dans ce mouvement charismatique qui agit actuellement un peu de partout dans le monde, c'est surtout là qu'il y a un autre Jésus qui est prêché. Dans d'autres milieux peut-être, on ne sait pas exactement. Mais là, puisque nous sommes concernés de ces choses-là, il nous faut avoir les yeux ouverts. Vous dites, mais comment le savoir? Ah ben, on va faire le test. Amen. Et c'est là qu'il faudra être droit devant Dieu. Il faudra une grande droiture et une grande humilité. Si nous aimons la vérité, nous n'avons rien à craindre. Amen. Si nous aimons la vérité, si nous aimons vraiment le Seigneur, nous n'avons rien à craindre. Mais si nos cœurs sont tordus, alors là, la crainte est en nous, la duplicité est en nous, la ruse est en nous. Mais si nous aimons sincèrement le Seigneur, il n'y a aucun problème. Amen. Alors, voyons cela, c'est très important. Comment discerner le vrai Jésus du faux? Ou comment savoir qu'on nous prêche, qu'on ne nous prêche pas un autre Jésus? Si je vous posais la question, si quelqu'un vous pose la question, qu'est-ce que vous allez répondre? Dites-moi un petit peu. Ah bon, je ne savais même pas qu'il y avait un autre Jésus. Moi, j'ai cru que tous ceux qui parlaient de Jésus étaient vraiment de Jésus. Ah, pas toujours. Pas toujours. Amen. Alors, voyons maintenant, passons un petit examen, comment discerner, puisque le thème est le discernement spirituel, et surtout dans ces temps de la fin. La Bible parle bien de faux Christ aussi, vous êtes d'accord avec moi? Car il s'élèvera des faux Christ, Matthieu 24, 24, c'est facile à retenir. Des faux Christ et des faux prophètes, ils feront de grands miracles, au point de vous séduire, même les élus. Des faux Christ. Un faux Christ, c'est quoi? C'est quelqu'un qui ressemble tellement à Christ, qui fait un peu les choses de Christ, mais ce n'est pas le vrai. Mais ça ressemble. Mais ce n'est pas le vrai. Dans beaucoup de domaines, il y a beaucoup de ressemblances, de similitudes. Mais ce n'est pas le vrai. On dirait que c'est le vrai, mais ce n'est pas le vrai. Alors, vous êtes d'accord avec moi? Il faut qu'on sache discerner quel est le vrai du faux. Amen. Et encore une fois là, ce sont les Écritures qui vont nous aider à faire ce discernement. Alors, j'ai noté plusieurs points ici. Nous allons commencer par le commencement. Comment savoir, donc, qu'on nous prêche le vrai Jésus ou qu'on nous prêche un autre Jésus? Alors, nous allons lire dans Jean, chapitre 14, verset 15. Le premier point, celle-ci. Comment savoir qu'on prêche un autre Jésus? C'est quand on nous parle d'un amour pour Jésus sans obéir à Jésus. Voilà le premier point. Je répète. C'est quand on nous parle qu'on doit aimer Jésus sans qu'il y ait dans notre cœur aussi l'obéissance à Jésus. Et dans beaucoup de milieux, actuellement, on aime beaucoup Jésus. Mais est-ce que l'obéissance suit? Regardez ce qu'il est dit ici. Si vous m'aimez, c'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ensuite, un autre verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Ensuite, au verset 24, celui qui ne m'aime pas, ne garde point ma parole. Et ensuite, oui, jusqu'ici, donc. Celui qui ne m'aime point, ne garde point ma parole. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et au verset 21, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Alors voyez-vous, ici, il y a une vérité très importante. Ce n'est pas celui qui dit à Jésus, « Oh Jésus, je t'aime », qui l'aime vraiment en réalité. La preuve de notre amour pour Jésus se prouve dans notre obéissance à sa parole. Amen. Sinon, nous sommes séduits. Sinon, nous pensons que nous pouvons aimer Jésus sans obéir à Jésus. Et si nous pensons que nous pouvons aimer Jésus sans obéir à sa parole, nous n'aimons pas le vrai Jésus. C'est un autre Jésus. Amen. C'est important, là. Si je suis convaincu dans ma petite tête que je peux aimer Jésus, comme dans beaucoup de milieux, on l'entend. Oh, alléluia, vous voyez certaines personnes qui aiment le Seigneur et qui vous disent, et on leur demande, est-ce que vous aimez Jésus? Mais bien sûr que j'aime Jésus. Mais si vous vous posez l'autre question, est-ce que tu obéis à la parole de Jésus? Il n'y a plus rien du tout. On obéit aux traditions, aux commandements d'hommes, mais l'obéissance, il n'y en a pas. Alors, on se fait des illusions. Lorsque nous pensons que nous aimons Jésus, alors que, dans le fond de notre cœur, nous n'obéissons pas à sa parole.
Cet amour-là est un amour pour un autre Jésus, mais pas le vrai Jésus. Parce que le vrai Jésus n'accepte pas cela. Le vrai Jésus nous dit, si tu m'aimes, eh bien tu dois garder mes commandements. Amen. Alors voyez-vous, quand quelqu'un vous dit j'aime Jésus, ah, c'est peut-être pas le vrai Jésus. Ah, vous dites, mais comment ça? Est-ce qu'on peut juger cela? Est-ce qu'on peut dire? Ah, mais il faut faire les tests. Il faut dire ensuite à la personne, bon, c'est bien d'aimer Jésus, mais est-ce que tu le prouves? La preuve que tu l'aimes, c'est que tu obéis à sa parole. Mes amis, c'est très important. Et on oublie cela. Jésus l'a bien dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. L'amour que nous avons pour Jésus, pour le vrai Jésus, c'est un amour qui nous conduit à obéir. Amen. J'aime Jésus et je le prouve en obéissant à sa parole. Mais si je persiste à désobéir à sa parole, et malgré cela je dis encore que j'aime Jésus, alors je n'aime plus le vrai Jésus, c'est un autre Jésus que j'aime. Voyez-vous combien c'est sérieux? Et ça se fait toujours petit à petit, petit à petit. Très subtilement, nous pouvons nous éloigner de ces choses. C'est pourquoi nous devons absolument veiller. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Aimer Jésus, le vrai Jésus, c'est obéir à sa parole. C'est là qu'on le prouve. Parce que tout le monde peut dire j'aime Jésus. Vous êtes d'accord avec moi? Tout le monde. Beaucoup peuvent dire j'aime Jésus. Mais s'il n'y a pas d'obéissance à la parole de Jésus, alors ce n'est pas le vrai Jésus que nous aimons. Ça nous fait réfléchir, vous êtes d'accord avec moi? Alors, on doit se poser la question continuellement. Dire que j'aime Jésus n'est pas suffisant, je dois le prouver. Je dois le dire, mais je dois le prouver pour ne pas me tromper moi-même. La Bible dit bien, ne vous trompez pas vous-même par de faux raisonnements. C'est tragique quand les autres nous trompent, vous êtes d'accord? Mais c'est encore plus tragique quand nous nous trompons nous-mêmes par de faux raisonnements, par de fausses conceptions, pensant que j'aime Jésus, alors qu'en réalité, je n'aime pas le vrai Jésus parce que je n'obéis pas à sa parole. Le test est là. Il y a combien dans beaucoup de milieux, spécialement justement dans ces milieux un peu où on retrouve un peu tout le monde, où plusieurs églises se rassemblent. Alors on dit bien, l'essentiel c'est d'aimer Jésus. Mais on n'appuie jamais sur l'obéissance à sa parole. Parce que ça divise, soi-disant. Ah, c'est là qu'est le test. C'est là qu'est le test. Cet amour-là est un amour verbal que Jésus ne peut pas accepter. Si vous m'aimez, voyez-vous, Jésus dit bien les choses comme elles sont, alors gardez mes commandements. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. Et le verbe garder ici, dans le texte, c'est garder un précieux trésor. Alléluia! C'est la parole du Dieu d'amour, du Dieu de notre salut. Alléluia! Ce n'est pas une observance du bout des lèvres. C'est cette parole de Dieu que vous gardez et qui est la source de votre salut. Alléluia! Un premier test. Si on dit que j'aime seulement Jésus sans obéir à sa parole, c'est un autre Jésus que nous sommes en train d'aimer. Comment savoir que nous pouvons parler d'un autre Jésus? Une deuxième référence, quand nous parlons de la paix que Jésus apporte, sans parler que cette paix apporte aussi la division. Sans parler que Jésus apporte aussi la division. Mais seulement parler de paix, sans parler de la division que Jésus aussi apporte, c'est prêcher un autre Jésus. Matthieu chapitre 10, versets 34 et 35, ça c'est des versets qu'on n'entend pas beaucoup. Et que dans ces milieux un peu plus ou moins charismatiques, vous n'entendez pas du tout ça. Surtout pas. Surtout pas! Et pourtant, c'est Jésus qui parle. Alors, on parle de Jésus, mais finalement, on ne dit pas tout de Jésus. Et si on ne dit pas toutes les paroles de Jésus, on apporte un autre Jésus. Matthieu, chapitre 10, versets 34 et 35. C'est important. Très important. Vous êtes d'accord avec moi? Il ne faut pas seulement prendre de Jésus les belles paroles qui nous bénissent. « Oh, je vous apporte la paix. Jésus est le prince de la paix. » Tout ça, c'est vrai. C'est sûr que c'est vrai. Mais c'est un aspect de la vérité. Et si nous n'apportons pas l'autre aspect de cette vérité, eh bien, nous sommes conduits dans l'erreur. Et c'est ainsi que, si nous maintenons qu'un aspect de la vérité, nous apportons un autre Jésus. Matthieu 10, versets 34 et 35, regardez ce qu'il est dit. « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. » Quelle parole ! Est-ce que vous entendez beaucoup ça ? Qu'est-ce qu'on entend ? Aimez-vous les uns les autres, alléluia, Jésus est venu apporter la paix. Mais ces passages-là de Jésus, ça bouscule, ça dérange. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemis les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Alors bien sûr, vous êtes d'accord avec moi, Jésus apporte la paix. Étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu, c'est certain. Alléluia. Mais si Jésus amène la paix, pour ceux qui obéissent à sa voix, à son évangile, à sa parole, la paix en est le fruit. Amen. Mais malheureusement, tout le monde n'obéit pas. Et c'est là la tragédie. Et quand on n'obéit pas, il y a une division. Il y a une division qui s'opère, même au sein de la famille. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas aimer son père ou sa mère. Mais cela veut dire que notre amour pour le Seigneur doit être plus grand. Et c'est d'ailleurs ainsi, plus nous aimons le Seigneur, plus nous arriverons à aimer nos parents, nos frères, nos sœurs et tout cela. Mais lui doit avoir la première place. Mais si les autres n'acceptent pas, il y a la division. Dieu, le Seigneur, ne veut pas cette division. Mais elle est le résultat de la désobéissance, du refus du message. Et Jésus apporte aussi cela parce que tout le monde n'accepte pas. Autrement dit, parler de la paix de Jésus sans parler que Jésus amène aussi la division, c'est prêcher un autre Jésus. Amen. C'est prêché à notre Jésus. Si on ne parle que de la paix, voilà, Jésus apporte la paix, la paix, la paix. C'est un aspect de la vérité. Mais il est venu aussi amener la division. Jésus est réaliste, vous êtes d'accord avec moi? Et nous sommes trop idéalistes. Nous ne voulons pas faire face aux responsabilités. Nous ne voulons pas faire de la peine aux gens, c'est ça notre problème. Il y a trop de sentiments en nous, nous n'avons pas d'amour. Nous avons beaucoup de sentiments, mais peu d'amour ou pas d'amour. Quand nous avons beaucoup de sentiments, nous cachons la vérité. Mais si nous avons beaucoup d'amour, du vrai amour, nous ne cachons pas la vérité, nous la publions. Même si cette vérité déplaît ou blesse, mais parce que nous aimons les gens, nous apportons la vérité, nous ne la cachons jamais. Mais bien souvent, les chrétiens confondent sentiment et amour. C'est ça le problème. Beaucoup de chrétiens sont remplis de bons sentiments et ils pensent que c'est l'amour. Et comment savoir si c'est des sentiments ou si c'est l'amour? Eh bien, c'est quand vous dites la vérité. Si vous êtes capable de dire la vérité, alors c'est l'amour qui vous anime. Mais si vous êtes incapable de dire la vérité lorsqu'il faut la dire, eh bien, ce sont des sentiments humains qui vous animent. Et si nous persistons dans cette voie-là, uniquement la paix, alléluia. L'amour, d'abord, voyez-vous, la paix. Et c'est ce qu'on entend maintenant. La paix, il faut vraiment... Voilà, on veut rien savoir d'autre. Division, surtout pas, ça vient du diable. Il y a certaines divisions qui viennent du diable, entièrement d'accord. Amen. Encore là aussi, il ne faut pas, voyez-vous. Bah, parce que certaines divisions viennent vraiment du diable, que toutes les divisions sont du diable. C'est là l'erreur, c'est là la séduction. Il y a des divisions qui viennent de Dieu. Parce que Dieu est mis en premier. Alors il ne faut pas tout mélanger. Parce que ce mot-là, division, c'est un mot qui... On est traumatisé par ce mot-là, n'est-ce pas vrai? Il y en a qui n'osent plus l'utiliser, ce mot. Jésus l'a utilisé. Si Jésus l'a utilisé, je peux l'utiliser. Tu peux l'utiliser aussi. Et Jésus, c'était lui, l'homme plein d'amour par excellence. Alléluia. Alléluia. Voyez-vous donc, quand on parle de la paix de Jésus, sans parler que de la division que Jésus amène à ceux qui refusent son message, alors nous n'apportons pas le vrai Jésus, nous prêchons un autre Jésus. C'est sérieux, n'est-ce pas? Très sérieux. C'est pourquoi dans ce domaine-là, il ne faut pas chercher à plaire à quiconque. Il faut surtout chercher à plaire à Dieu. Amen. Il ne faut pas essayer d'avoir un message dans le vent qui fait que, oh là là, maintenant, on est sûr que si vous parlez de paix, vous êtes sûr que tout le monde va être d'accord, tout ça, voilà, c'est ce qu'on veut, l'approbation déjà, on veut surtout pas bousculer, on veut pas que les gens s'opposent, on veut pas tout ça, non, non, nous on veut être bercés, tout ça, ah oui, bercés à tout vent de doctrine, c'est bien ça. Mais la conséquence, c'est une vie ruinée, une vie que Dieu ne peut plus utiliser. Parler de la paix de Jésus, sans parler de la division aussi que Jésus amène, c'est prêcher un autre Jésus. C'est d'accord? C'est la parole de Dieu. Encore un autre point. Parler, troisième point, parler du ciel sans parler de l'enfer, c'est aussi prêcher un autre Jésus. Parce que Jésus a prêché les deux. Amen.
Amen.
Je répète. Parler du ciel, Jésus a parlé du ciel. Alléluia. Mais il n'a pas seulement parlé du ciel, il a aussi parlé de l'enfer. Est-ce qu'on entend beaucoup parler de l'enfer aujourd'hui? Tout le monde est gentil, tout le monde alléluia, tout le monde ira au ciel. Oh là là, ne vous faites surtout pas de soucis, tout ira bien, Dieu vous aime, Jésus vous aime. Jésus vous enverra tous au ciel, en première classe, vous irez là-haut. En première classe, direct, il est si bon, il est si bon. Mais on ne nous dit jamais que Jésus a parlé aussi de l'enfer. Référence, Matthieu 25, versets 41 et 46. C'est très important. Comment savoir qu'on nous prêche un autre Jésus? Eh bien, quand on nous prêche seulement le Jésus qui veut qu'on aille au ciel. Sans nous mettre en garde d'un Jésus qui ne veut pas, qui désire nous délivrer de l'enfer, nous en préserver. Matthieu 25, versets 41. Qu'est-ce qu'il est dit? Et le roi leur répondra, donc on ne va pas tout lire le passage. Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces petits, de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Est-ce que vous entendez cela dans certains milieux? Soi-disant de réveil, enfin je veux dire charismatique, ou soi-disant l'Esprit de Dieu agit. Quand l'Esprit de Dieu agit, mes amis, on met les gens en face de leurs responsabilités. Amen.
Amen.
Et c'est la preuve que c'est vraiment le Saint-Esprit, le vrai Jésus qui agit quand on dit les paroles de Jésus.
Amen.
Et plus loin, verset 46, qu'est-ce qu'il est dit? Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternel. C'est le même mot éternel pour le châtiment que pour la vie éternelle. Et qui est-ce qui a dit ces choses? Qui est-ce qui a dit ça? C'est le vrai Jésus.
Amen.
L'autre Jésus qu'on prêche, que certains prêchent, ne parle que du ciel. Que du ciel. Ça, c'est un autre Jésus. Dans certains milieux, on n'entend plus du tout parler de l'enfer. Et on prêche toujours Jésus. On prêche toujours Jésus. Mais de l'enfer, pas. Mais qui en a parlé de l'enfer? Ce n'est pas moi, ce n'est pas vous, c'est Jésus. C'est le vrai Jésus. Comment savoir que le vrai Jésus est prêché? C'est quand on vous prêche le ciel, où nous pouvons aller par la grâce de Dieu, mais l'enfer, si nous refusons cette grâce, ça c'est le vrai Jésus. Si on nous cache cette vérité de l'enfer, ce n'est pas le vrai Jésus. Vous dites, ah oui, il ne faut pas faire peur aux gens, il vaut mieux leur faire peur un petit peu. Et qu'ils n'aillent pas en enfer. Que de les laisser dans une illusion. Et croire que finalement tout ira bien. Il est tellement bon, voyez-vous, il est tellement amour, Jésus. Qu'il n'est pas question d'aller en enfer. Ce n'est plus le vrai Jésus, c'est un autre Jésus. Et vous le supportez, vous l'acceptez fort bien, dit Paul. Quelle tragédie! Et pourtant, il parle à des chrétiens, aux Corinthiens, qui avaient les dons, la manifestation des dons. Mais manifestement, le discernement n'était pas là. Et c'est là le grand problème dans ce soi-disant réveil charismatique. On parle de tous les dons, mais du don du discernement des esprits, on n'en parle pratiquement jamais. Avez-vous remarqué? Le discernement, il n'en parle jamais. Comme si tout venait de Dieu. Il n'y a pas besoin de discernement. Alléluia. Ils sont déjà au ciel. Alléluia, tout est bien. Le discernement, il n'y en a pas. Et pourtant, on croit au don, on croit en tout, mais sans discernement. Quelle tragédie! N'est-ce pas vrai, mes amis? Voilà le vrai Jésus qui nous dit, si tu te repens, si tu acceptes d'être purifié par mon sang, une place te sera réservée dans le ciel. Alléluia. Mais si tu ne te repens pas, il y a un lieu qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Pour ceux qui refusent l'évangile de la grâce, il y a un lieu pour eux. Ça, c'est le vrai Jésus qui parle. Amen. Extrêmement sérieux. Comment savoir? Quand nous prêche le vrai Jésus, eh bien, quand on nous dit que Jésus nous a préparé une place dans le ciel, mais pour les rebelles, le châtiment éternel. Un quatrième point, comment savoir qu'on nous prêche le vrai Jésus, ou qu'on ne nous prêche pas un autre Jésus, ou qu'on nous prêche un autre Jésus? C'est quand on nous parle de la foi en Jésus sans la repentance. On parle de croire en Jésus, mais de la repentance, on n'en parle pratiquement pas. Marc chapitre 1, verset 15. Et pourtant, qu'a dit le vrai Jésus? Marc, au début de son ministère, Marc 1, 15, « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Nous, on a enlevé le « repentez-vous », encore une fois, ça traumatise les gens, soi-disant. Soi-disant que ça traumatise, écoutez-moi bien, soi-disant. Vous ne traumatisez pas les gens en leur parlant de la repentance. Les gens sont déjà traumatisés. Et la repentance, loin de les traumatiser, va les délivrer de leur traumatisme. Amen. Quelle erreur, quelle mauvaise conception nous avons des choses. Les premières paroles de Jésus, repentez-vous et croyez. Et nous, qu'est-ce qu'on entend? Croyez en Jésus. Croyez, croyez. Oh, viens, il te reçoit. Crois, crois. Pas de repentance. Le mot repentance, on n'entend pas. On n'entend pas. Ça, c'est négatif. On entend beaucoup, ça aussi. Le positif et le négatif, il faut un message positif, pas un message négatif. Dites-moi un petit peu, je vais vous poser une question. Dans la Bible, on ne parle jamais de positif et de négatif. Ça, c'est un langage humain, psychologique. Dans la Bible, il y a des choses négatives qui sont extrêmement positives. Amen. Tout ce qui est apparemment négatif dans la Bible n'est pas forcément négatif aux yeux des dieux, aux yeux des hommes et aux yeux de Dieu. Ce sont des vérités extrêmement positives. Amen. La foi sans repentance. Croyez, croyez, croyez. Et c'est pour ça que nous avons dans ces milieux beaucoup de gens qui croient, mais dont la vie n'est pas changée. Aucun changement. Ils sont toujours les mêmes. Avant, ils priaient leurs idoles, ils continuent de prier leurs idoles. Et ils vous disent, j'aime Jésus, je prie Jésus, je loue Jésus. Et ils continuent de prier leurs idoles. Ils continuent de mentir. Ils continuent de commettre adultère. Ils continuent de faire les mauvaises choses. Aucun changement. Et vous voyez ces gens dire, mais j'aime Jésus. Voyez-vous, mais il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi? Parce qu'on a négligé, on a parlé de la foi en Jésus, d'accord, c'est biblique. Mais avant, on a mis la charrue devant les bœufs. Avant de parler de la foi, Jésus a mis la repentance. Nous avons mis donc la charrue devant les bœufs. Nous parlons de croire. Alors que Jésus dit, repens-toi d'abord. Et ensuite, crois. Pierre aussi, le jour de la Pentecôte, quelles sont les premières paroles de Pierre rempli du Saint-Esprit? Il était rempli du Saint-Esprit, ou bien? Oui, la Bible dit, Pierre rempli du Saint-Esprit, s'écria, repentez-vous. Et faites-vous baptiser au nom du Seigneur, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Première parole, repentez-vous. Et il était rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit, repentez-vous. Et aujourd'hui, croyez, croyez en Jésus. Mais la repentance, on n'en veut pas. On ne prêche pas. Et pourtant, Jésus en a parlé. Si tu parles de la foi en Jésus sans parler, que Jésus nous demande la repentance, tu prêches un autre Jésus. Ce n'est pas le vrai Jésus. Tu tronques la vérité. Tu falsifies la vérité. Et tu falsifies la personne même de Jésus. Dites-moi un peu, si vous prenez de mes paroles uniquement un certain aspect de ce que je dis, et pas l'autre aspect, mais vous allez me prendre pour quoi? Je vais passer pour un menteur complet. C'est pas vrai? Vous allez complètement déformer ma pensée et ma personne, n'est-ce pas vrai? Et on fait la même chose de Jésus quand on pense seulement les passages qui nous conviennent. Et les passages qui nous dérangent, nous n'en voulons pas. Voilà la génération aujourd'hui. C'est qu'on veut entendre des choses agréables. On veut entendre que des choses qui nous caressent. Ah oui, on va prier pour toi, oui, on va prier. Ah. Et puis alors, voilà. Oh, il ne faut pas bousculer les gens, il ne faut pas les bousculer. En ne les bousculant pas, soi-disant, nous ne les aidons pas. Et ces gens, au bout de 10 ans, 20 ans, soi-disant de conversion, entre guillemets, ou de foi en Jésus, sont toujours les mêmes. À qui la faute? Premièrement, à ceux qui leur prêchent la parole. Premièrement. Et sans nous en rendre compte, nous prêchons un autre Jésus, et les gens sont déçus. Qu'est-ce que c'est que ça? Je crois en Jésus et puis il n'y a rien qui se passe. Croire en Jésus ne suffit pas. La repentance. Qu'est-ce que la repentance? C'est ce changement de vie. Je me repens. Ça veut dire que je me détourne de mon passé, de mon péché, de ma rébellion, de mes idoles, de toutes les œuvres du diable. Je m'en détourne. Je confesse cela. Je l'abandonne. Je le hais. Et s'il faut brûler certaines choses, je les brûle. Je coupe définitivement avec mon passé. Et quand quelqu'un fait cela, il est pardonné et il est délivré. Alléluia. Là où il y a une sincère repentance, le diable ne peut pas tenir cette personne. La repentance. Acte 19:19, vous connaissez ce passage? À Éphèse, quand les gens, beaucoup ont cru, et il y en a qui ont pratiqué la magie et tout ça, il est dit qu'ils confessèrent leurs péchés et ensuite ils brûlèrent leurs livres de magie. Le mot brûler leurs livres, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils se repentirent. Et une fois qu'ils se repentirent, qu'ils se sont repentis et qu'ils ont brûlé ces livres, ils étaient totalement délivrés de la puissance de Satan. Nous ne voyons pas après les apôtres, comme certains feraient aujourd'hui. Oula, t'as fait tout ça. Viens, il faut passer des heures avec toi. Non. On passe des heures quand la personne n'a pas passé par une authentique repentance. Et on passe des heures, des mois et des années pour revoir la personne souvent tombée dans les mêmes problèmes, et on ne s'en sort pas. Il y a la méthode biblique. Elle est plus lente, mais elle est plus sûre. Amen. On est trop pressé, nous. On veut du monde. On veut dire, voilà, telle personne est ceci, comme ça, délivrée et tout. On veut tout ça. On est trop pressé. Mais nous n'allons pas en profondeur. Une foi en Jésus, sans la repentance, voilà la tragédie. Et nous prêchons un autre Jésus, parce que Jésus n'a pas seulement parlé de la foi, il a d'abord parlé de la repentance. C'est cette coupure avec le passé, définitive. Et ensuite, c'est se tourner vers le Seigneur. Maintenant, je crois en toi. Tu es mon sauveur, ton sang a coulé pour me purifier. Ta mort sur la croix m'a délivré de la puissance des ténèbres. Alléluia, je me donne à toi. Désormais, je veux vivre pour toi. Là, la foi a un sens, vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. La foi a un sens. C'est la foi dans l'œuvre parfaite de Jésus, dans la puissance de Jésus. Et il y a un changement qui s'opère. Ça, c'est le vrai Jésus. La repentance et la foi. Mais aujourd'hui, c'est la foi. Et c'est pourquoi il n'y a pas de profondeur. Dès que le vent souffle, dès que la pluie tombe, Vous ne voyez plus ces gens-là, c'est fini. La maison s'écroule parce qu'elle n'a pas été bien fondée. Amen.
Amen.
Un cinquième point, c'est quand nous louons Jésus sans obéir à Jésus. Quand nous louons Jésus sans lui obéir. Matthieu 15, verset 8, ça vous surprend ce passage, mais c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Matthieu 15, verset 8. Un passage important, mais ça, on ne le prend pas souvent, ce passage, naturellement. C'est des passages qui dérangent, ça. Faut pas en parler, surtout. Pourtant, c'est Jésus, mais il faut pas en parler. Alors, de qui? On veut parler de qui? Pas du vrai? Si tu parles pas du vrai, tu parles du faux. Tu parles d'un autre. Il ressemble au vrai, mais c'est pas le vrai. Il ressemble, c'est vrai, mais c'est pas le vrai. Matthieu 15, verset 6, « Vous annulez la parole de Dieu au profit de vos traditions hypocrites. » Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il dit « Ce peuple m'honore des lèvres. » Et le mot ici « honoré », on pourrait le traduire « m'adore des lèvres ». Il y a le mot « adoration » ici. « Ce peuple m'adore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, c'est en vain qu'il m'adore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements. » Voyez-vous? Ici, comme la chose est sérieuse, ces pharisiens, soi-disant, honoraient, adoraient Dieu, mais ils n'obéissaient pas du tout à la parole de Jésus qui était là, qui leur parlait, ils n'en voulaient pas. Ils adoraient pourtant. Et Jésus est là, on n'en veut pas. Savez-vous qu'on peut louer, adorer Jésus, et ne pas vouloir de sa parole qui nous dérange? On choisit sa tradition, les commandements d'homme au lieu de la parole de Jésus. Est-ce que ça existe, ça? Est-ce que ça existe? Ah oui, ça existe. Combien préfèrent la tradition de leur Église que l'enseignement du Seigneur Jésus? Et pourtant, ces gens-là honorent Dieu, adorent Dieu, mais Dieu dit, le Seigneur dit, c'est du bout des lèvres. Son cœur est éloigné de moi, c'est du bout des lèvres. Cette adoration-là, je ne peux pas l'accepter. Adorer Jésus sans vouloir obéir à Jésus, c'est une adoration vaine. C'est une adoration vaine. Alors autrement dit, seulement adorer Jésus, c'est bien. C'est magnifique, il faut continuer. N'est-ce pas? Nous avons été créés pour l'adorer. Mais laissez-moi dire une chose. La véritable adoration nous conduit toujours à l'obéissance. Parce que quand on aime quelqu'un, on veut lui obéir. Sinon, c'est de l'hypocrisie, comme dit Jésus. Vous êtes des hypocrites. Et pourtant, allez voir. Allez voir. On aurait dit, mais oh là là, vous vous rendez compte, c'est ça, ces pharisiens, ils sont extraordinaires. Il y avait tout pour plaire. L'attitude, le comportement, on avait l'impression que c'était des saints. Mais Jésus dit, ce sont des hypocrites. Ils adorent soi-disant Dieu, mais dans leur cœur, ils ne veulent pas de la parole de Jésus. Ils ont choisi d'obéir à leur tradition qu'à la parole de Dieu. Et lorsque nous aimons, adorons Jésus, et que de l'autre côté, nous ne voulons pas obéir à la parole de Jésus, nous adorons et louons un autre Jésus. Oui ou non? C'est comme ça? Vous ne pouvez pas dire je loue Jésus, et puis d'un autre côté, mettre de côté sa parole. Si tu fais cela, Jésus te dit tu es un hypocrite. C'est du bout des lèvres. Ton cœur est éloigné de moi. Ça ne sert à rien. Arrête de louer. Arrête. C'est de l'hypocrisie. La vraie adoration qui plaît à Dieu, c'est celle d'un cœur obéissant à la parole de Dieu. Alléluia. Car la vraie adoration doit être conforme à la parole de Dieu. Il y a des milliers de religions qui soi-disant adorent Dieu, mais est-ce qu'ils adorent vraiment Dieu? Et pourtant, ils ont des cérémonies d'adoration et tout ça. C'est un zèle sans connaissance. Et Dieu n'accepte pas cela. Notre adoration de Jésus doit se faire avec intelligence, dans le cadre de la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que vous voyez toute une foule louer Jésus que Jésus est impressionné. Pas du tout. Parce que Jésus regarde dans le fond des cœurs. Si ces personnes ne sont pas décidées à obéir au Seigneur et mettre la tradition, les commandements d'hommes ou de leur église avant la parole de Jésus, alors c'est une adoration vaine. c'est adorer un autre Jésus et non pas le vrai Jésus. C'est sérieux, vous ne trouvez pas? C'est sérieux, c'est sérieux. Et c'est pourquoi Jésus était sérieux, hypocrite, il cachait pas la réalité des choses. C'est comme si on disait, vous ne pouvez pas divorcer ces deux choses. Si vous m'honorez, eh bien il faut obéir aussi. Voyez-vous, quand on apporte seulement un aspect de la vérité, c'est là que nous trompons. Nous nous trompons nous-mêmes et nous trompons les autres. Et on dit pourtant, ah, regardez comme il loue le Seigneur. C'est magnifique. Comment c'est magnifique? Ah, c'est magnifique à la chair, aux yeux de la chair. Regardez comme c'est beau. Oh, regardez, ils ont un visage angélique. Mmh. Angélique, oui. Drôle d'angélique. Si après vous leur dites, la parole de Dieu dit ça, est-ce que tu... Comment? Mon église dit ça, c'est ça qui compte, après c'est tout. Alors où est cette adoration, soi-disant, d'un grand amour pour le Seigneur? C'est du bout des lèvres et le cœur est loin de Dieu. Amen. Mes amis, c'est important. Et si on vous prêche un autre Jésus, vous le recevez fort bien. Vous le supportez fort bien. Quelle tragédie! Et il y en a qui le supportent. Et en général, ce sont ceux qui sont ignorants de la parole de Dieu et ceux qui font trop de sentiments. Attendez, frère, il ne faut pas être trop strict. Hein, trop strict. Mais moi, à côté de Jésus, je ne suis rien du tout encore. Les paroles de Jésus sont beaucoup plus strictes, vous êtes d'accord? Dans les évangiles, Jésus a utilisé des mots que je n'ose jamais employer, moi. Qui paraissent sévères. Mais c'était un cœur plein d'amour qui parlait.
Amen.
Amen. Amen. Nous avons une fausse conception de l'amour. Une très fausse conception. Tout est sentimental. Mais Jésus ne tenait pas du tout compte de cela. Il avait le vrai amour qui dit la vérité. Car c'est la vérité qui libérait rien d'autre. Allons un peu plus loin. Un sixième point, une sixième différence, c'est quand nous disons « Seigneur, Seigneur » et que nous n'obéissons pas à sa parole. Alors là, c'est un autre Jésus et non pas le vrai. Vous voulez la référence? Matthieu 7, 21. C'est très important ça aussi. Vous savez, Jésus, il observait les gens. Il observait les gens. Et un jour, Matthieu 7, 21, et un jour, il a dit, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Regardez ici. Dire Seigneur, Seigneur, c'est merveilleux, vous êtes d'accord avec moi? Seigneur, tu es merveilleux, c'est beau, c'est faux, c'est magnifique. Mais quand c'est seulement Seigneur, Seigneur, et qu'on n'obéit pas encore une fois, voyez-vous, à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu, alors Jésus dit c'est en vain. Et dans tous ces milieux, qu'est-ce qu'il y a? Seigneur par-ci. Crois-tu au Seigneur Jésus? Bien sûr, je crois au Seigneur. Je crois au Seigneur. Et beaucoup, parce que quelqu'un dit, je crois au Seigneur, que ça y est, oh magnifique, mais voyons, il croit au Seigneur. Qu'est-ce que vous les jugez? Ils croient, ils disent que Jésus est le Seigneur. Ça ne veut absolument rien dire. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Amen. Nous avons un autre Jésus lorsque nous parlons seulement de lui comme étant le Seigneur, sans obéir à sa parole. Mes amis, c'est extrêmement sérieux. Et combien de gens disent Seigneur, Seigneur, mais dans leur vie, ils ne veulent pas obéir. Ou alors ils obéissent qu'à ce qui les arrange. Et quand tu dis le mot Seigneur, ça veut dire qu'il est le maître de tout. Et que vous lui avez remis votre vie, et qu'à partir de ce jour, vous êtes prêt à lui obéir, quand ça vous arrange, et même quand ça vous dérange, il est le maître, il doit faire comme il l'entend. Amen. Amen. C'est ça, ça veut dire, quand je dis Seigneur,
Ça veut dire que je me soumets à toi, dans les bons comme dans les mauvais jours, quand ça me plaît, quand ça me déplaît, tu es le Seigneur, je suis ton enfant, je veux t'obéir. Seigneur, Seigneur, ça veut dire tu es le maître, je suis ton serviteur, je ferai ce que tu veux, non pas ma volonté, mais ta volonté, sans condition.
Et combien disent oui, Seigneur, Seigneur, d'accord, je veux bien, mais, oui, mais, combien de, oui, mais, oui, mais, oui, mais, oui, mais. Alors, ce Seigneur-là, ce n'est pas le vrai Jésus, c'est un autre Jésus. Il lui ressemble, mais ce n'est pas le même. Et ce n'est pas le vrai. Quand nous disons Seigneur, Seigneur, cela veut dire je soumets ma vie entière à ta volonté. Amen. Tu es le seul, il n'y en a pas d'autre, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est pourquoi il y en a qui disent Seigneur, Seigneur, et qui prient Marie ou les saints. Regardez la confusion, juste pour prendre un exemple flagrant. Un exemple flagrant de la séduction quand quelqu'un vous dit « Ah, mais Seigneur par-ci, Seigneur par-là. » Et cinq minutes après, Marie par-ci, les saints par-là. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une contradiction. C'est une anomalie. Quand tu as dit Seigneur, ça veut dire que plus rien d'autre ne compte dans ta vie que le Seigneur. Et quand tu ajoutes quelqu'un d'autre, quand tu pries à quelqu'un d'autre, au travers de quelqu'un d'autre, Jésus n'est plus le Seigneur. Il n'est plus le Seigneur. Tu dis Seigneur quand il est le maître absolu. Amen. Et au-dessus de lui, en dessous de lui, à côté de lui, il n'y a personne d'autre. Amen. Jésus est le Seigneur. Il est le maître absolu. Il est le seul Dieu. Les autres sont des idoles si nous les prions. Amen. C'est sérieux. C'est sérieux. Wow. Et nous, on est impressionnés. Seigneur, Seigneur. Et puis par derrière, allez. L'idolâtrie est là. Non, ça c'est pas le vrai Jésus, c'est un autre Jésus. Et ça se fait toujours subtilement, vous êtes d'accord avec moi? Oui. Très subtil. Allons, un septième point maintenant. Ça c'est le vrai Jésus qui parle. Ah, j'aime Jésus parce qu'il dit la vérité. Amen. Amen. Dites-moi un petit peu, si Jésus était un peu comme certains hommes, où on serait maintenant? On serait tous esclaves. On s'est dans les ténèbres, esclaves de Satan et de toutes sortes de doctrines étrangères et mauvaises. Mais Jésus est la lumière du monde. Il est venu apporter la vérité. Ah, il a payé cher pour dire la vérité. Il l'a payé cher. Si nous sommes libres maintenant, mes amis, Jésus a payé un grand prix pour nous racheter. C'est pourquoi la Bible dit, nous ne devons pas maintenant nous remettre sous l'esclavage des hommes. Parce que nous avons été rachetés à un grand prix, alléluia. Si tu es libre, si je suis libre, c'est parce qu'il a payé un grand prix. Ne foulons pas à nos pieds le sang de Christ. Ne le foulons pas. C'est sérieux. Tu ne peux pas dire Seigneur d'un côté et après prier Marie, les saints, je ne sais pas. Pas possible. Ce Seigneur-là n'est pas le Seigneur. C'est un autre Jésus, mais ce n'est pas le vrai. Parce que Jésus ne peut pas entrer dans ses compromis et dans ses alliances. C'est de l'adultère spirituel. Et tu crois que Jésus va accepter cet adultère spirituel? Non. Il n'y a qu'un seul Dieu. C'est lui seul que nous devons adorer. Le reste, c'est de l'idolâtrie. Septièmement, un autre point important maintenant, pour savoir qu'il y a le vrai Jésus, d'un autre Jésus, c'est quand il y a des miracles, soi-disant au nom de Jésus, mais sans obéissance, encore une fois, à la parole de Jésus. Vous m'entendez bien? Très important. Quand il y a des miracles au nom de Jésus, mais que dans la vie de cette personne, il n'y a pas d'obéissance à la parole de Jésus, ou à toute la parole de Jésus. Alors, référence, c'est un point important là. Parce que nous vivons un siècle ou une génération où quand quelqu'un voit un miracle, oh, on tombe à genoux tout de suite. Merveilleux! On pense que tous les miracles viennent directement du ciel. Quelle erreur! Quelle erreur! Et Jésus nous avertit, le vrai Jésus nous avertit. Matthieu 7, ah ben juste un peu plus loin. Restons dans Matthieu, verset 7, chapitre 7, verset 20 à 23. Donc juste un peu avant. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez, donc en parlant des faux prophètes, gardez-vous des faux prophètes, verset 15. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des
loups ravisseurs, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ensuite, verset 20, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs, écoutez-moi bien maintenant, voilà Jésus nous avertit. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur. Vous voyez encore le nom du Seigneur. N'avons-nous pas prophétisé par ton
nom?
Non. Par ton nom. Ils ont utilisé le nom de Jésus. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Nous, qu'est-ce qu'on dirait? Alléluia! Alléluia! Et regardez ce que le vrai Jésus dit. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. Un miracle au nom de Jésus ne veut pas dire que ça vient forcément de Jésus. Si il n'y a pas l'obéissance à la parole de Dieu dans la vie de cette personne. Et maintenant, je vais donner une autre référence importante qui confirme ce que je viens de vous dire. Deutéronome, chapitre 13, ça peut sauver la vie de plusieurs personnes ici. Deutéronome 13, versets 1 à 4, concernant justement les faux prophètes, ceux qui font des miracles. Dieu permet cela. Mais pourquoi? Vous allez voir. Deutéronome 13, verset 1 à 4, « S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant, regardez, en disant, voyez, le signe arrive, mais qu'est-ce qu'il dit? Allons auprès d'autres dieux. Pourtant, il y a le miracle qui arrive. Et tout de suite après, celui qui a fait le miracle dit, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Écoutez maintenant, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve. Pour savoir si vous aimez le Seigneur, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez, vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez, et vous vous attacherez à lui. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel, votre Dieu. Écoutez-moi bien, mes amis. Quelqu'un fait un miracle, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Le fruit, c'est ce qui est visible, n'est-ce pas? Il n'est pas dit, vous les reconnaîtrez à leurs intentions profondes. On n'est pas Dieu, nous, pour connaître ça. Mais vous les connaîtrez à leurs fruits. Le fruit, c'est ce qui est visible. Et bien, vous remarquez quels sont ces fruits? Le premier fruit que l'on doit voir dans la vie de ces personnes, c'est justement l'obéissance à sa parole. Celui qui dit Seigneur, Seigneur, et qui n'obéit pas à ce que je lui dis. Le fruit que Jésus attend, c'est l'obéissance. Et quand quelqu'un fait un miracle, soi-disant au nom de Jésus, et qui ensuite vous dit, ou lui-même, allons adorer Marie, prions les saints, faisons ceci, faisons cela, qu'est-ce que ça veut dire? C'est là le grand piège. C'est une abomination aux yeux de Dieu. C'est là un test. Dieu nous teste. Donc quand un miracle arrive, il ne faut, pas dire « Ah, c'est merveilleux, mais vous avez vu, Philippe !» Ça commence à me faire frémir. Combien de chrétiens sont comme hypnotisés devant les miracles? Ah, vous ne connaissez pas celui-là? Il est merveilleux. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Leur miracle ne m'impressionne pas et n'impressionnait pas du tout Jésus. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Quelle est la prédication? Quelle est sa doctrine? Est-ce qu'il nous conduit à adorer le seul vrai Dieu? Ou est-ce qu'il nous conduit vers d'autres dieux? Et dans le cas présent, il y a beaucoup de soi-disant prêtres qui font des miracles, mais qui conduisent les gens à servir d'autres dieux. C'est un test pour savoir qui vous allez servir. Et il y en a qui courent après les miracles. Ce sont des aveugles conduisant des aveugles et ils tomberont tous les deux dans le même trou. Mais c'est un test pour toi et pour moi. Est-ce que je vais suivre le miracle? Ou est-ce que je veux, avant tout, aimer et obéir à la parole?
Amen.
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 Alors voyez-vous, des miracles au nom de Jésus sans obéir à la parole de Jésus, c'est prêcher un autre Jésus. Il est temps que certains se réveillent. Parce qu'il y en a trop déjà qui sont tombés dans ce piège. C'est un test, Dieu te teste. N'applaudis pas tout miracle. Tu les reconnaîtras leurs fruits. Quel est le fondement, la foi, la doctrine de cette personne si elle nous dit allons servir d'autres dieux? Alors, c'est un faux prophète. Tu ne l'écouteras pas. Mais le miracle, il n'est pas question de discuter là-dessus. C'est un faux prophète. Il pousse le peuple à adorer d'autres dieux. Même si on parle de Jésus, même si on dit j'aime Jésus, quand on dit j'aime Jésus et je crois en Jésus, plus rien d'autre ne doit se placer à côté de Jésus. Amen.
Amen.
Mais là, on en met à côté. On en met à côté, dessous, partout, on en met tout autour. Si bien qu'on ne peut même plus aller vers Jésus. Pour aller à Jésus, il faut passer par quelqu'un d'autre. Quelle tragédie, quel mensonge, quelle idolâtrie. Et il y en a qui applaudissent ceux qui font des miracles et qui ont une telle doctrine. C'est Babylone. Si nous acceptons cela un jour, nous aurons le jugement de Babylone aussi. C'est très sérieux. Très sérieux. C'est un test pour moi et pour vous. Un test. Le test final doit être l'obéissance à sa parole. Peu m'importe tous les prodiges que tu peux faire. Si tu conduis les peuples à adorer le peuple, à adorer d'autres dieux, je ne veux pas de tes miracles. Je veux aimer l'Éternel, mon Dieu. C'est un test. C'est un test. C'est un test. C'est un test. Dieu veut voir ce qu'il y a au fond de ton cœur, si tu l'aimes par intérêt ou si tu l'aimes de tout ton cœur. Suivre les miracles, c'est quoi? C'est l'aimer par intérêt. Amen. T'as vu?
Formidable, miracle par-ci, formidable.
Qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout par intérêt. C'est un amour égoïste, sentimental. Et Jésus veut faire la lumière dans ces choses-là. Il veut savoir quel est le fond de ton cœur. C'est pourquoi il permet ces choses dans ces temps de la fin. Il les permet. Non pas pour que tu tombes dans le panneau, mais pour que ton cœur se révèle et que tu suives le droit chemin.
Amen.
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 Merci Seigneur. Alors que le Seigneur nous donne de réaliser ce qui est le vrai Jésus et l'autre Jésus. Comment le discerner? Nous en avons besoin plus que jamais. Amen. Que nos cœurs s'attachent au vrai. Et ainsi, Dieu sera satisfait. Et nous pourrons le glorifier toujours plus, car des temps de séduction viennent, que notre cœur vraiment soit attaché au Seigneur et à sa parole. Nous ne pouvons pas séparer le Seigneur et sa parole. Les deux sont intimement unis. Amen.
Amen.
Amen.